poème du gaucher, non pas une histoire à mon sujet, donc au sujet de Billy the Kid, vu par leurs yeux. Trouver le début, la petite clé en argent pour la débloquer, la déterrer. Voici un labyrinthe pour commencer, pour se perdre. Alors une pièce pour se perdre, un labyrinthe. Quel silhouettage apparaît à la fois de Pat Garrett et de Billy the Kid dans ses poèmes du gaucher Pascal Bernet?
Je dirais justement des silhouettes, parce que je crois qu'il est impossible de s'identifier ni à Pat Garrett ni à Billy the Kid. Donc simplement prendre le principe d'évoquer ces personnages, d'en créer une évocation qui devient donc une silhouette, de manière à ce que le public, ce soit à lui de faire le travail. Le travail de montage, le travail de reconstitution de la mémoire, ce que ça pouvait être, et puis de son propre imaginaire, en fait, surtout. Je pense qu'on a tous, par rapport à ces héros de l'Ouest, héros ou pas héros, hein, parce que je veux dire, ce sont quand même des criminels, mais on a tous, par rapport à eux, un imaginaire qui, en même temps, et je crois que le spectacle, je ne l'ai pas vu, bien entendu, puisque je suis dedans, mais je crois que le spectacle tend à permettre le développement de l'imaginaire du spectateur.
Le développement, il en est aussi question au plan photographique.
Je crois que c'est ça, parce qu'en même temps, l'acteur au théâtre, il est projeté sur la scène, il y va de lui-même aussi, mais il est projeté lui-même sur la scène. Et si je parle de mon personnage, Pat Garrett, il y a certains moments où on ne voit pas du tout mon visage parce que j'ai le chapeau, je regarde éventuellement Billy qui est à terre, et j'essaie justement de faire disparaître justement toute trace possible de moi-même pour en arriver de plus en plus à justement ce silhouettage et cette évocation. Je crois que de plus en plus ça m'intéresse au théâtre, tout d'un coup l'impression de disparaître non pas derrière le personnage mais derrière une silhouette qui à la limite à contre-jour est peut-être plus lisible que si elle était pleine de tout ce qu'on pourrait y mettre personnellement en tant qu'acteur.
Assassin et intellectuel.
Je vois ça dans la pureté de l'action. Je pourrais le définir comme ça, tel que je l'ai pris, tel que je l'ai lu, et j'écoute énormément ce que disent bien entendu les autres personnages de Pat Garrett, qui est dans la pureté. Il est dit aussi plus tard qu'il est capable de tuer quelqu'un dans la rue et de retourner au bar, finir une blague qu'il avait commencée. Et moi, j'y vois quelque chose qui est à faire, et même au niveau de sa morale propre, il l'avait aboli complètement, toutes les autres morales, seule la sienne lui suffisait. Donc il y a une forme de pureté là-dedans aussi, qui rejoint, je crois, celle de Billy, qui lui, dans le sens, serait plus dans le piège de la passion à tous les niveaux, qu'il s'agisse de sa relation avec les femmes ou de sa relation avec Garrett, où aussi en même temps il y a une forme d'ambiguïté, mais on a l'impression que l'un et l'autre ne peuvent pas exister l'un sans l'autre.
Alors il y a aussi un souci véritablement du taille, je cite, « plus difficile encore, des choses qui rampent partout, faut penser à travers ». La vague de fourmis sur lui, des millions, vestes mouvantes jusqu'au col. Il y a notamment cette scène où vous êtes face à un petit cactus et il y a cette manière de regarder les fourmis. Comment est-ce que vous l'avez approché, comprise?
Moi, je l'ai compris. Alors exactement, physiquement, je dirais que je l'ai compris dans ce que dit ensuite Billy. On est comme deux géants, mais on est confronté à cette espèce de monde qui lui aussi a sa pureté, dans le sens où les fourmis, dès lors qu'elles rencontrent une autre fourmi d'un autre clan, d'une autre fourmilière, elles n'hésitent pas à leur trancher la tête. En fait, il y a des bagarres assez rangées, et je pense que c'est un monde qui est du même ordre. Une forme de pureté qui vit sur le sable et puis qui transporte ses denrées, et dès lors qu'il y a un danger, attaque. Donc je crois que la fourmi, pour moi, représente aussi cette espèce de fourmilière humaine aussi, dans laquelle on est d'autant plus plongé aujourd'hui que l'individualisme se révèle constamment, et que la fourmilière, malgré tout, même si elle répond de l'ensemble, je crois qu'elle dépend aussi de l'individu.
Il y a une scène où on parle aussi de vous, parce qu'évidemment, c'est une forme de poème collage-montage qu'a réalisé Ondadje. C'est un poème, et il y en a un donc sur vous, sorte de, je dirais pas d'épopée, mais en tout cas, on parle de vous. À un moment, c'est donc Billy the Kid qui en parle, et vous mangez une orange, vous pelez une orange d'abord, et ensuite vous la mangez tout en exudant la chair. Donc c'est un moment assez étrange. Est-ce que vous pouvez nous rappeler cet épisode?
Oui, alors ça c'était un souhait de la metteur en scène, parce que j'ai essayé avec des pommes, effectivement. Alors j'ai pelé une pomme, avec sa pelure jusqu'au bout, ça me semblait être quelque chose qui était une belle illustration de ce que pouvait être un docteur, sans vouloir montrer le docteur avec une trousse, mais une âme de docteur. Donc tout d'un coup une âme de quelqu'un qui peut disséqué. Donc l'idée de l'orange, pour moi, c'était, oui, effectivement, bon, c'est un peu le monde, là, on connaît bien, la terre est bleue comme une orange, comme disait Éluard, un poète communiste, là, je le cite comme ça, et il y a cette autre chose, c'est comment on découpe l'orange, faire ces quartiers tout à fait précis d'écorce, et ensuite les mêmes quartiers, et ensuite sucer, mais n'en tirer que l'essentiel, mais rejeter tout ce qui est pulpe. Et j'ai l'impression aussi que ces gens-là, dans leur vie, peut-être pas de Garrett, c'était ça, en tout cas dans l'idée que je m'en fais, des choses, ils voulaient le meilleur, mais ils ne voulaient pas le résidu qui coinçait entre les dents.
On aurait pu penser effectivement que ce qui pourrait faire le lien dramaturgique entre ces différents tableaux ou épisodes flottants entre réalité, rêve, passé, présent, ça aurait pu être la figure de ce journaliste, photographe. Or, ça n'est pas le cas, et c'est assez intelligent d'ailleurs de l'avoir monté comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez justement de cette vision? Parce que, évidemment, on redistribue de manière, dans un ordre assez différent et très éclaté, comme au sein d'un kaléidoscope, les différents éclats d'Ondaatje, notamment l'interview avec ce journaliste Texas Chronicle. Ça commence évidemment par la photographie, donc par le début. Mais néanmoins, il s'absentéise beaucoup, ce personnage, pour laisser d'une certaine manière les ombres flotter, dans notamment un duel circulaire. Alors, qu'est-ce qu'il en est justement sur ce fait que cette narration n'est pas véritablement prise en charge par l'un ou par l'autre? Enfin, comment est-ce que vous ressentez?
Parce que je crois, sans vouloir dire du mal des journalistes, que justement ce qui se passe dépasse le journaliste, c'est-à-dire, ou le journaliste lui-même. C'est-à-dire que dans le fond, ce qui se passe est réellement entre Pat Garrett et Billy the Kid. La présence du journaliste, du coup, il se sent, lorsqu'il est pris au milieu d'une forme de duel, il est au centre du plateau, Pat Garrett et Billy the Kid sont de part et d'autre, et donc lui, tout d'un coup, au bout d'un moment, sent qu'il est de trop et qu'il est en plus sur le chemin des balles possibles. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, tout d'un coup, il peut pas trouver sa place parce que l'histoire est entre deux. C'est comme deux joueurs de poker qui s'affrontent à une table à 7. Tout d'un coup, au bout d'un moment, on s'en rend très vite que ça ne concerne que deux personnes et que tous les autres ne sont que les figurants de ce combat qui se déroule. Et j'ai l'impression qu'avec le journaliste, il y a la volonté de témoigner qui nous est nécessaire aussi pour que le spectacle non seulement existe, mais aussi une espèce de mémoire de Billy the Kid et de Pat Garrett. Mais il y a une chose, c'est que ce journaliste a peut-être l'intelligence de s'effacer finalement parce qu'il se rend compte que ce qui se passe entre ces deux personnes le dépasse. Ça devient de l'ordre du mythe et presque de la légende, en fait.
Alors, lors du mythe, lors du magnétisme aussi, si on reprend un passage, le mouvement parfait avant d'être lancé, magnétique dans le combat, un crayon harnachant mon visage, trébuche en pointillé. Alors, ce crayon, c'est tout d'abord un duel à distance avec votre ombre de Pat Garrett projetée face à Billy the Kid, donc Bigger Than Life. Et puis après, effectivement, ce mouvement magnétique ou de balancier, vous deux pointant donc vos pistolets un petit peu dans le crépuscule ou à contre-jour. Qu'est-ce qu'il en était justement sur ce magnétisme qui relie l'un à l'autre?
Il y avait une véritable amitié, c'est-à-dire il y a eu véritablement rencontre. Quand même, Garrett était tueur de bisons, et puis il n'a pas hésité non plus, une fois qu'il avait tué des bisons, à tuer des hommes. Donc tout d'un coup, il y avait une rencontre de deux personnes qui avaient probablement, comme ça se passait dans l'Ouest, entendu parler l'un de l'autre. Et tout d'un coup, c'est un peu la scène avec les noix, qui est un peu difficile à raconter, mais tout d'un coup, il se trouve qu'il y a un duel où on doit jeter une noix dans un cactus. Et Garrett y arrive tout le temps parce qu'il est calme, et le Kid, lui, il doit s'énerver, il doit le faire à tout prix. Et donc j'ai l'impression que, oui, ces espèces de légendes doivent se mesurer, mais en même temps, ça n'empêche pas l'amitié. Ça n'empêche pas l'amitié, sauf qu'il y a un moment où Garrett, d'un coup, décide, ou je ne sais pas s'il décide, mais peut-être pour assurer ses vieux jours, il est quand même plus âgé que Billy, il devient shérif. Ce qui est la pire des trahisons pour Billy, et puis en même temps c'est une autre manière de continuer à faire exactement le même métier qu'il faisait avant, c'est-à-dire tueur, mais simplement il se trouve qu'il a maintenant une étoile de shérif.
Ce personnage, on va le retrouver à la fin avec ce qui semblerait être ce dernier passage, mais appliqué visiblement à Billy the Kid, mais c'est Pat Garrett qui le dit, ou alors peut-être le croisement est ailleurs. Dans la salle de bain, je rince ma bouche des restes de nicotine, je sens encore la fumée sur ma chemise. Là, il semblerait qu'on parle dans le récit de Billy the Kid, or c'est vous, Pat Garrett, sur le lit, scellé. Cette poésie.
Le travail avançant, ce texte ne trouvant pas de destinataire au niveau des comédiens, j'ai proposé que ce soit Garrett, mais après la mort du Kid. C'est-à-dire de manière à ce que lui soit très touché par ça. C'était qu'en gros, la vie pour lui s'arrête. Il n'y a plus de raison de vivre, que ce soit pour chasser le Kid ou d'être son ami. Il n'y a plus de raison de vivre. Il y a une espèce de perte dont il ne se rend pas compte, peut-être en le tuant, parce qu'il le fait sous le couvert de la loi, mais humainement, je crois qu'il le ressent comme une espèce de perte, pour une impossibilité de vivre, en fait, finalement. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris ce texte pour Garrett, et on l'a essayé, et puis je l'improvise un peu tous les soirs, parce que j'aime à ce moment-là que ce ne soit pas l'acteur qui parle, mais un peu l'être humain qui prend le risque de dire que quelque chose nous manque, et voilà, un seul être nous manque, et tout est dépeuplé.
Ce collage assez ciselé de souvenirs et de rumeurs est aussi accompagné par trois slameuses, véritablement dans dans des partitions qui font à la fois penser aux hillbillies, c'est-à-dire les origines de ces chants qui ont donné après le country et le rock, et qui admiraient tant d'ailleurs quelqu'un comme Burroughs. C'était un peu des storytellers à l'époque, je veux dire là des conteuses, alors on parle d'un trio mexicain. Il faut dire que c'est fait avec énormément de retenue, quelques cuillères, une guitare, c'est remarquable d'épure et véritablement on est très très loin d'un slam à grand corps malade ou d'autres. Qu'est-ce que vous pensez qu'apporte en termes de commentaires, notamment le dernier un peu rimbaldien avec ces planètes sanglantes qui tournent dans la tête de Billy the Kid?
Alors sans justement vouloir revenir à grand corps malade, mais je trouve qu'il y avait quelque chose dans grand corps malade qui me fait un tout petit peu penser à Malraux, les élégies de Malraux lorsqu'il rentre ici, Jean Moulin. Il y a quelque chose de triste là-dedans, de ces espèces de voix un peu sentencieuses. Tandis que là justement, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est elles sont dans la dramaturgie du spectacle. Censées être des personnes actuelles qui regardent ce mythe aujourd'hui. Donc je pense qu'elles en donnent, elles y donnent quelque chose qui est de l'ordre, un, du rythme, de l'envie de dire, et puis de ce que ça signifie encore aujourd'hui. Et je pense qu'à l'intérieur du spectacle, c'est très intéressant parce que ça nous décale. Nous, on a véritablement l'impression d'être des cow-boys un peu poussiéreux avec des bottes et des éperons. Et tout d'un coup, on voit ces trois jeunes femmes qui nous parlent d'aujourd'hui, de ce qu'elles ressentent aujourd'hui. D'autant plus que les textes ont été écrits par deux des slameuses, Malou et Madame, et elles interprètent leur texte et nous replacent dans un présent, c'est-à-dire dans une actualité du mythe. Et pas, comment dire, justement, et je ne veux pas en revenir, excusez-moi, grand corps malade, je ne veux pas revenir à ça, mais non pas une nostalgie du mythe, non pas dans une élégie pesante du mythe.
Justement, parlons de cette absence ou cette présence de la civilisation, lorsqu'on lit « À Boot-Hill, il n'y a que deux tombes de femmes », les seuls cas de suicide connus dans ce cimetière.
Condatch donne pas mal de place aux femmes dans ce texte à travers leur témoignage. Donc le regard de la femme sur Billy the Kid est un regard ouvert et pas un regard sectaire, raciste, sexiste ou quoi que ce soit. C'est un regard ouvert sur l'être humain. C'est un être humain. Elles vont jamais dire oui, c'est un tueur et basta. Elles disent oui, j'ai pensé qu'il allait me trancher la gorge, mais après j'ai vu que c'était un très beau gars, poli, qui m'a fait un grand sourire. Et là, il y a possibilité de rencontre. Et c'est peut-être ce qui n'était pas permis à l'époque pour les femmes, même pas cette rencontre était possible vu que les tensions étaient entre les hommes et puis qu'il fallait tout de suite se cacher dès qu'il y avait fusillade ou quoi que ce soit. Mais à l'intérieur des maisons, je pense le côté sociable, le côté, ce que j'avais envie aussi de rendre, c'est qu'à travers cet enfer que vit Billy dans sa poursuite, c'est qu'il va tout à coup quand même dans le ranch de Sally Chisholm, et là c'est un peu le paradis. Dans cet enfer, dans ce désert où il n'y a rien, où il y a des tempêtes de sable, rien à manger, il y a tout à coup un petit havre, paradis, où il y a toujours des bons festins à faire, où il y a toujours un bain chaud qui nous attend, et puis où on peut faire un peu de musique, danser, et même faire l'amour avec la maîtresse de maison, pourtant qu'elles soient encore jeunes filles, quoi.
Justement, parlons de trois jeunes filles. C'est ces trois slameuses qui ont écrit donc des textes originaux. C'est vrai qu'il y a un retour très émouvant à ce qu'était le hillbillies au départ, c'est-à-dire véritablement aussi cette pratique du conteur qui faisait partie de cette geste, de ces récits épiques autour de héros comme Billy the Kid ou d'autres, et qui colportaient ça un petit peu comme des chamallions de village en village. Ici, on retrouve avec ces trois slameuses et des compositions remarquables, je dois dire, de retenue, qui allient le meilleur du folk américain avec des sonorités surgies d'instruments assez basiques. On a évidemment les fameuses cuillères, mais il y a toute une manière de scander, de syncoper. Qu'est-ce que vous aviez comme vision avec ce cœur de femme?
Alors au départ, tout était entre leurs mains. Avec Jean-Philippe Zwalen, le musicien, on leur a dit, bon voilà, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous nous apportez? Tout le matériau, le scénario était écrit, même les textes qui leur étaient attribués, d'Ondatch, parce qu'il y a quand même deux, trois textes d'Ondatch qu'elles disent. Après je leur dis, ce texte-là, vous le continuez. Le texte qui commence par « J'ai vu », il fallait qu'elle le continue, parce que tout à coup, c'était quelque chose qui pouvait vraiment avancer, comme ça parle aussi de l'industrialisation, des machines, de tout ce modernisme qui rentre et donc ça avance. Et il y avait quelque chose de rythmique là-dedans et qui pouvait vraiment partir dans un chant, dans un quelque chose de scandé. Toute l'histoire de Boutil, Pascal Bessier qui se fait appeler Madame comme nom de slameuse, elle l'a réécrit, elle dit non mais là j'ai écrit un texte. C'est pour remplacer celui d'Ondatch. Ça sert à rien puisqu'en fait de mettre les deux, vu que je dis ce que dit Ondatch, je parle des deux femmes, seul cas de suicide, et je parle aussi de ces morts, de ces morts violentes, mais à ma manière, avec mon style et puis mon rythme, donc quelque chose de plus rapide et jeté. Et en même temps, j'avais envie de cette adresse aussi aux spectateurs, en disant vous n'êtes pas venu ici pour vous endormir dans vos fauteuils, pour passer un bon moment au théâtre. Non, ici, on n'en sort pas indemne. Et ce spectacle va finir par mort d'homme. Il y en aura un qui va vraiment mourir. Et voilà, c'est donc comme en effet un bonimenteur, un narrateur qui vient, même au début d'un Shakespeare, nous dire « Vous allez assister à une comédie, mais il y aura quand même du sang versé ».
Du sang versé, puis je dirais presque un récit photosensible qui s'ouvre effectivement sur l'évocation d'une iconographie. C'est d'ailleurs le début du récit d'Ondadje, avec cette photographie et donc ces projections d'Yves Kropp, je crois, qui lui, effectivement, montre véritablement une photo qui sort d'un main révélateur. Et on rappellera d'ailleurs qu'il n'y a pas véritablement d'image certifiée de Billy the Kid, même la seule qui existe est très controversée. Alors qu'est-ce qu'il en était justement de faire une œuvre qui passe véritablement par une sorte de caractère photosensible. À plusieurs reprises, les personnages apparaissent comme en ombre chinoise, en silhouette. On joue beaucoup sur cet aspect révélateur, ombre. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça ?
Il y a plusieurs choses, parce qu'il y a déjà le mythe. Avec Yves Kropp, on s'est penché sur le mythe. Lui, venant du cinéma, donc aussi c'est avec lui que j'ai écrit le scénario, et aussi José Ponce et Pascal, la slameuse, donc on s'est mis à quatre pour écrire ce scénario. Et puis pour Yves, tout à coup l'évocation visuelle, enfin le mythe est aussi lié à cette icône, l'icône de cette jeunesse fulgurante qui peut être aussi celle d'une autre star, Elvis Presley, Marilyn Monroe, James Dean. Donc tout à coup ces stars qui sont mortes jeunes sont devenues des icônes, ou même le Che Guevara qu'on a sur le t-shirt et encore aujourd'hui, même si on ne connaît pas vraiment l'histoire du personnage, ce sont devenus des mythes, et le mythe passe aussi par l'image. Et d'ailleurs, dans le film d'Arthur Penn, Le Gaucher, il y a une très belle scène où Billy pose pour le photographe. En même temps, il voit deux mecs qu'il a envie de descendre, qu'il a envie de se venger. Et en même temps, il doit rester immobile pour la photographie. Et tout tourne autour de ce regard qu'il doit avoir fixe. Et en même temps, il est à l'affût. Et il a un fusil en bois dans les mains pour la photographie. Et donc Arthur Penn, et il y a d'ailleurs Roland Barthes.
Jean, et qui va en fait, on le saura, être une sorte de Bartleby à la fin, c'est-à-dire c'est lui qui va, disons, ramener toutes ces mémoires fragmentées à l'écriture et à la connaissance de tout un chacun. Maintenant, cette suite de tableaux, l'un des défis quand même, c'est que, comme vous le dites très bien, Ondadje fait apparaître comme ça les lieux. Il y a des lieux extrêmement divers. Vous avez choisi de garder tous ces lieux à vue avec quelques signes un petit peu emblématiques de chacun d'entre eux, la chambre, la baignoire et d'autres. Pourquoi ce choix ?
Alors au début, c'est vrai que dans l'écriture du scénario, on l'a écrit comme un scénario de cinéma avec des extérieurs jour, nuit, petit matin, cellule de Billy the Kid, chambre de Pat Garrett, chambre d'Angie, le ranch et tout. Et puis après, au théâtre, c'est quand même pas évident de passer d'un lieu, d'être confiné dans un lieu, surtout sur une scène qui n'est pas non plus des plus vastes, avec une scénographie simple. Je voulais le plus simple possible, le moins d'accessoires possible. Et d'ailleurs, on en a beaucoup épuré, on est arrivé à quelque chose de très épuré. Et même à un moment donné, avant qu'on soit dans notre salle de jeu, on était dans une salle de répétition et le décorateur a fait le marquage au sol. Mais tout à coup, ce décor ressemblait au film de Dogville, avec simplement le plan des différentes maisons au sol. Et c'est vrai qu'on est sur un espace à deux dimensions, presque au théâtre. Enfin, on est vraiment à plat et qu'il faut être là. Et moi, j'avais envie d'un jeu à vue. Vu que j'avais peu de personnages, je voulais qu'ils puissent être là et faire vivre les autres personnages qui sont en action, même quand ils ne font rien. Donc, qu'ils soient vraiment toujours présents et toujours à l'écoute, toujours en tension les uns avec les autres. C'est pour ça que le narrateur, finalement, il est toujours là, même s'il est dans l'ombre, même si à un moment donné il y a une tension entre Pat et Billy, il arrive, il fait une traversée, c'est juste une silhouette. Et cette silhouette, elle devrait jouer ce même rôle qu'au cinéma. Tout à coup, on fait un travelling sur lui, un gros plan, et on le voit, on voit les yeux, puis ensuite on revient aux deux autres. Mais tout en sachant bien qu'un spectateur de théâtre, il englobe tout l'espace et il va choisir lui ce qu'il veut voir.
Liliane O'Donnell, comment vous est apparu ce personnage de Billy Duckie de 21 ans, qu'on découvre alors plus en détail dans le récit d'Ondaatje, c'est-à-dire qu'il a notamment été blessé à de multiples reprises, et notamment au nez, ce qui fait qu'il émettait un très grand sifflement. Enfin, en tout cas, j'ai confondu alors.
C'est
Tomo Folliard. Mais enfin, en tout cas, Billy Duckie, pour revenir à lui, comment est-ce qu'il vous est apparu au travers de cette vision un petit peu kaléidoscopique? Qu'est-ce que vous avez voulu convoyé par rapport à lui?
Des gens proches de moi qui sont partis aussi jeunes, qui ont soit brûlé leur chandelle par les deux bouts comme Billy, ou qui ont eu un destin comme ça fulgurant, de stars un peu, puis tout à coup ils ont disparu par la force du destin dans un accident ou comme ça. C'est à eux que je rends hommage en créant ce spectacle. Pour moi, c'était aussi une façon de leur dire autrement au revoir. C'est pour ça qu'à la fin, j'ai voulu ce générique avec une dédicace à trois de mes amis proches.
Est-ce qu'on peut célébrer comme ça, disons, le crime, alors le meurtre en plein jour ou en demi-teinte ou en clair-obscur? Mais c'est vrai qu'au départ, quand même, la personnalité, parce qu'il y a eu quand même d'autres chroniqueurs sur Billy the Kid, et relativement, si on essaie de revenir à faire la part entre la légende et la réalité, relativement médiocre tout de même.
Qu'est-ce qui est médiocre? J'ai pas compris.
Dans sa personnalité à lui, c'est-à-dire que c'était bon une... Pat Garrett est aussi un tueur à gages.
Est-ce que quelqu'un qui est charismatique, est-ce que c'est quelqu'un de formidable toujours? Des fois on se pose la question, mais pourquoi cette personne-là est si charismatique? C'est un monstre. Qu'est-ce qui la qualifie comme ça? Qu'est-ce qui fait que tout, quelque part, fait que ça converge autour de lui aussi, attire? Il attire comme un aimant. Et c'est vrai que c'est fascinant, je trouve assez fascinant ce genre de personnage.